Bonjour, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse. Et ce matin, émission exceptionnelle en compagnie de Yuval Noah Harari. Vous faites peut-être partie des millions de lecteurs de Sapiens, une brève histoire de l'humanité traduite en 42 langues. Cette synthèse brillante de l'histoire de l'humanité a été plébiscitée par le président Obama, par le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg, ou encore par le fondateur de Microsoft, Bill Gates. Yuval Noah Harari est aujourd'hui considéré par beaucoup comme l'un des essayistes les plus influents de la planète. Son nouvel opus, Homo Deus, va sans doute renforcer l'influence de cet historien visionnaire, quadragénaire, enseignant à l'université hébraïque de Jérusalem. Dans Homo Deus, Harari nous raconte une brève histoire de l'avenir. Pour lui, dans un proche avenir, l'homme aura en partie éradiqué trois fléaux majeurs, la famine, les épidémies et les guerres. Ensuite, les humains les plus favorisés pourront se consacrer à la quête d'immortalité et de félicité quasi perpétuelle, et un jour devenir tout-puissant à l'image de Zeus. Ce matin, Yuval Noah Harari nous raconte la vie future des descendants d'Homo sapiens. Réaction ce matin sur notre page Facebook. Bonjour Éric Libiot.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Rédacteur en chef à l'Express, bande annonce de votre petite mythologie d'un objet du quotidien.
Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler de l'invention et de l'objet le plus important de toute l'histoire de l'humanité.
À tout à l'heure, on est impatient de savoir. Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali.
Dans la vie des films tout à l'heure, un film de circonstance. Bienvenue à Gattaca, chef-d'œuvre d'anticipation.
Oui, c'est l'histoire d'un film où l'homme se prend pour Dieu, mais en fait, il oublie que l'homme est imparfait et c'est ça sa beauté.
À tout à l'heure.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rebi.
Bonjour Yuval Noah Harari.
Bonjour.
Merci de nous accorder cet entretien exceptionnel. Vous êtes donc professeur d'histoire à l'Université hébraïque de Jérusalem et vous avez donc publié Sapiens, énorme succès public et critique il y a quelques années. Quelle était d'abord l'ambition de Sapiens pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, contrairement à ma voisine ou au président Obama ?
Alors Sapiens, ça paraît de quoi ? On essayait de dire en 400 pages l'histoire, raconter l'histoire de l'humanité depuis l'âge de pierre jusqu'à l'âge de la Silicon Valley, comment on est passé d'être de primates insignifiants au maître de la planète.
Alors qu'est-ce qui vous a poussé à dresser une brève histoire de l'avenir avec votre nouveau livre Homo Deus ? Brève histoire de l'avenir, c'est un oxymore ?
Vous savez, quand, ayant parlé du passé, j'ai reçu de plus en plus de questions sur l'avenir et je m'en posais moi-même des questions parce qu'au bout du compte, finalement, le seul intérêt d'étudier le passé, c'est de comprendre quelque chose du présent et même de l'avenir. Tous ceux qui vivaient au passé sont morts, ils ne sont plus là et il n'y a pas d'intérêt à étudier le passé pour ceux qui n'y sont plus. Non, il faut savoir où l'on va maintenant. Qu'est-ce qui attend l'humanité? Et on est sur le point de prendre les décisions les plus importantes de l'histoire. Pas simplement l'histoire de l'humanité, mais vraiment l'histoire de la vie elle-même. Pourquoi ? Parce que nous sommes sur le point de changer finalement les lois les plus fondamentales de la vie. Après 4 milliards d'années où la vie a été dominée par la sélection naturelle, eh bien aujourd'hui commence une nouvelle ère, celle de ce qu'on appelle le dessin intelligent. Et après 4 milliards d'années où la vie a été dominée par la chimie organique, la biochimie, et bien maintenant, on entre dans l'ère de la vie électronique non organique.
Alors, Yuval Noah Harari, en 1993, vous vous rendez chez votre copain Ido pour jouer au ping-pong, mais Ido préfère vous parler d'une invention qui l'excite beaucoup à l'époque, Internet.
En effet, c'était la première fois que j'avais entendu parler de l'Internet. C'était Ido qui m'en avait parlé, c'était une des idées qui me paraissait le plus stupide qui soit à l'époque. Il montrait comment il pouvait relier son ordinateur chez lui à l'ordinateur de l'université du coin. Et je ne voyais vraiment pas l'intérêt de la chose. À l'époque, je trouvais ça complètement débile. Qu'est-ce qu'il y avait ? Quel était l'intérêt de relier comme ça deux ordinateurs, le sien à celui de l'université ? Lui-même, d'ailleurs, ne savait pas. Il se trouvait que c'était très cool, très sympa de faire ça, mais il ne trouvait pas me dire l'intérêt de la chose, et on a continué à jouer au ping-pong.
Alors en 1993, vous n'imaginiez évidemment pas qu'Internet conduirait à la révolution de l'économie, de la société, de nos vies personnelles et intimes, mais qui peut vraiment prédire ce qui nous attend dans au moins un quart de siècle ? Parce que dans Homo Deus, vous anticipez un monde futuriste où les titans des biotechnologies et de l'informatique modèleront un nouvel homme.
Ah ben non, bien sûr, personne ne peut prévoir ou prédire exactement l'avenir. On n'a aucune idée de la façon dont l'économie ou les systèmes politiques ou même nos relations familiales vont évoluer d'ici à, disons, 2050. Alors, ce que j'ai essayé de faire, par contre, dans l'ouvrage, ce n'est pas de faire une prophétie sur l'avenir, mais essayer de faire le point sur les différentes possibilités qui se présentent et surtout les différents dangers, les différents écueils qui nous attendent, avec l'espoir que l'on peut encore faire ce qu'il faut pour éviter le pire.
Alors, votre prédiction, entre guillemets, met l'accent sur ce que l'humanité va essayer d'accomplir au XXIe siècle et pas forcément sur ce qu'elle parviendra à accomplir.
Ah bah oui, c'est-à-dire qu'on va vraisemblablement essayer de prolonger la vie indéfiniment pour dépasser la vieillesse et la mort. Alors, ça n'est plus de la science-fiction. Par exemple, sur Google, enfin, la société Google plutôt a créé une filiale qui s'appelle Calico, dont l'objectif annoncé est de dépasser la vieillesse et la mort, surmonter la vieillesse et la mort. Donc, il y a un travail. Alors, après avoir trouvé la réponse au problème de la recherche, maintenant, c'est la mort qui est le prochain challenge. Alors, je ne sais pas si vous y arrivez, parce que souvent, l'histoire se définit par ce que l'on essaye de faire, pas par ce que l'on réussit à faire. Hein. Mais au XXe siècle, le communisme a essayé de créer une société égalitaire, et n'y est pas parvenu, mais le monde a quand même changé.
Yuval Noah Harari, si je vous comprends bien, votre prédiction, c'est moins une prophétie qu'une façon de débattre de nos choix présents?
Yes, that's perfectly
exactement,
correct.
Exactement. Par exemple, l'un des débats les plus importants d'aujourd'hui, c'est de savoir qui est propriétaire des données. Parce qu'aujourd'hui, le bien le plus important, ce n'est pas la terre, ce n'est pas les machines, ni même l'argent, c'est les données, c'est la connaissance. Ceux qui contrôlent, ceux qui possèdent les données, seront les maîtres de l'avenir, en tout cas les maîtres de la vie. Et actuellement, ces données sont concentrées entre les mains d'un tout petit nombre de grosses sociétés et d'États. Et la plupart des gens donnent gratuitement leurs données personnelles. Et en fait, il n'y a aucune loi, aucune réglementation qui régisse tout cela, la propriété des données.
Éric Libiot de l'Express et Guillemette Audicino ont lu votre livre. Éric Libiot.
Oui, par rapport au grand mouvement de l'histoire, l'invention de la roue, l'invention des religions, la révolution industrielle, en quoi ce qu'on vit aujourd'hui est le plus important? Est-ce que c'est parce qu'on a conscience de ce qui s'est passé avant et on maîtrise plus ou moins le futur? Ou comment est-ce que vous expliquez cette importance d'aujourd'hui?
Alors d'abord, il faut bien comprendre que l'étude de l'histoire est essentielle pour comprendre ce qui s'est passé hier et comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Cela nous permet d'élargir notre horizon pour poser les questions clés. Alors, nous sommes nés dans la société telle qu'elle est organisée et on considère cette organisation comme étant naturelle, comme étant normale. Et on a beaucoup de mal à voir au-delà de notre propre système, de notre propre société. On a du mal à s'imaginer que l'avenir puisse être entier. Différent. Et c'est ça que l'étude de l'histoire nous permet de voir.
Guillemette Audicino.
Moi, ce que j'ai trouvé à la fois fascinant et assez effrayant, en fait, c'est que, en fait, j'ai l'impression que vous décrivez une tentative de néo-darwinisme, c'est-à-dire dans cette volonté de prolonger la vie, d'augmenter le corps, il y a ceux qui pourront se le payer et les autres.
Yes, it's if we are not careful.
Mais oui. Et si l'on n'est, si on ne fait pas attention, on va créer la société la plus inégalitaire de toute l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce que par le passé, l'inégalité était uniquement politique ou économique. Il n'y avait pas d'inégalité biologique. En tout cas, il n'y avait pas de différence biologique entre, disons, les riches et les pauvres ou entre les rois et les paysans. Mais avec la révolution de la bio-ingénierie qui ne fait que commencer, il sera peut-être possible de traduire l'inégalité économique en inégalité biologique. Et donc, d'ici une cinquantaine d'années, peut-être qu'il y aura des castes, des classes sociales, ou plutôt des classes biologiques. Et là, il y a vraiment une différence.
Yes. Alors Yuval Noah Harari, je dois vous avouer qu'Homo Deus, une brève histoire de l'avenir, c'est l'un des ouvrages les plus stimulants que j'ai lu depuis bien longtemps. Et Guillemette Odissino, vous partagez cet enthousiasme.
Ah oui, je suis d'accord. Enfin, le livre précédent était un raccourci absolument hallucinant de l'histoire de l'humanité. Mais ce qui est intéressant aussi dans cet opus suivant, c'est aussi un livre qui dit que l'homme se prend pour Dieu, mais il est en train d'oublier non seulement évidemment la planète, mais même les animaux, enfin tout ce qui concerne la vie, et que ça va finir par, pour dire vulgairement, lui retomber sur le coin de la gueule.
Yuval Noah Harari.
Yes, I think we are as humans.
C'est un peu ça, parce que effectivement, l'homme se préoccupe surtout de lui-même, ne se préoccupe même que de lui-même et néglige tout le reste. Ne pense pas aux autres créatures, ne pense pas ni à la planète, ou à l'environnement, ou à rien du tout. Et maintenant que nous approchons la divinité dans le sens où on peut créer et détruire aussi bien que des dieux, ça devient particulièrement dangereux. Pourquoi ? Parce que nous commençons à ressembler à des dieux. Enfin, littéralement, dans ce que nous sommes capables de faire, nous pouvons recréer la vie, nous pouvons lui donner forme. Enfin, ça, c'est une, disons, une compétence divine, mais en même temps, nous sommes des dieux parfaitement irresponsables.
Émission exceptionnelle ce matin avec Yuval Noah Harari, l'auteur d'Homo Deus qui vient de sortir. Nous attendons vos réactions sur notre page Facebook. Cette émission est préparée par Alexia Rivière et Claire Destacan et par notre journaliste Théo Denmat avec l'aide d'Antoine Vandeville. Et c'est réalisé par Eric Lenné. Et la traduction est assurée ce matin par l'excellent Robert Wolfenstein. Interprété sous garantie.
Ali Rebbi, grand bien vous fasse. Sur France Inter.
Émission spéciale ce matin en compagnie de Yuval Noah Harari qui, après le succès mondial de Sapiens, publie Homo Deus. Alors, Yuval Noah Harari, pour vous, dans un proche avenir, l'homme aura éradiqué trois fléaux majeurs, les épidémies, la famine et la guerre. Ce sont les trois mêmes problèmes qui préoccupaient les habitants de la Chine du XXe siècle, ceux de l'Inde médiévale ou ceux de la France du XVIe siècle. Alors certains derrière leur poste ou leur smartphone doivent douter que l'on puisse un jour éradiquer ces trois fléaux.
Attention, je ne dis pas qu'on va pouvoir éliminer purement et simplement la guerre, la famine ou les épidémies. Je vis au Proche-Orient, je sais qu'il y a encore beaucoup de violence dans le monde. Ce que je dis par contre, c'est que nous avons véritablement transformé ces problèmes. Au lieu d'être des forces de nature absolument incontrôlables, qu'on ne pouvait absolument pas contrer justement, on les a transformés en problèmes gérables. Et il y a 1000 ans, s'il y avait une famine, une épidémie ou la guerre, bah, on ne pouvait que prier pour que les choses s'arrangent et puis les choses ne s'arrangeaient pas. Alors que aujourd'hui, la décision nous appartient. C'est-à-dire que si on voit un problème de famine, alors il y a encore des gens qui meurent de faim dans le monde, il faut le reconnaître. Mais cela n'arrive que pour des raisons politiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nature, de famine naturelle, disons. Ces famines sont toujours provoquées par des causes politique. Si au Soudan ou en Corée du Nord on meurt de faim, ce n'est pas parce qu'il y a une absence objective de nourriture, c'est pas ça. C'est uniquement parce que un État, un gouvernement, un homme politique, un être humain a décidé qu'un peuple devrait ou allait mourir de faim.
Mais alors justement, puisque l'homme peut maintenant canaliser ces trois fléaux mortels, c'est pas étonnant qu'il puisse s'attaquer au quatrième fléau, la mort elle-même.
Dans la mesure où nous sommes en mesure de gérer ces problèmes de famine, d'épidémie, maintenant le vrai challenge, c'est la mort elle-même. Et là, ça n'est plus de la science-fiction, puisque de plus en plus de scientifiques, mais également dans les milieux d'affaires, on parle très sérieusement de la possibilité de prolonger indéfiniment la vie humaine, trouver la réponse aux problèmes de la vieillesse, du cancer, ou de la maladie d'Alzheimer. On ne dit plus « Ah, on meurt à cause de la volonté de Dieu ou d'un problème métaphysique ». Les gens ne meurent que pour des raisons ou pour des problèmes techniques. Et chaque problème technique a sa solution technique. Donc, la mort elle-même n'est plus, si vous voulez, le domaine privilégié des prêtres. C'est le domaine des ingénieurs.
C'est la cruauté ultime de la vie. Elle vous donne le goût de la jeunesse et de la vitalité. Et ensuite, elle fait de vous le témoin de votre décrépitude.
Bah oui, c'est la loi de la nature.
On s'en fout de la loi de la nature. Qu'est-ce que c'est ? Ce que vous êtes venu chercher. Un peu de magie. Dans ce monde obsédé par la science. Une potion. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Selon vous, quel est mon âge ? Oh, 28.
3. 23.
Je viens de fêter mes 71 ans. Voilà ce qu'elle fait. Elle arrête le processus de vieillissement de plein fouet et le repousse dans ses retranchements. Buvez cette potion et vous ne vieillirez pas d'un seul jour de plus. Ne la buvez pas et vous continuerez à vous voir pourrir.
Un extrait de La mort vous va si bien de Robert Zemeckis. Alors, tuer la mort, c'est sans doute le grand projet de notre siècle et surtout du suivant. Le projet n'est pourtant pas de devenir immortel, c'est plutôt de vivre le plus longtemps possible, au moins 150 ans, dans la meilleure forme possible. Parce que comme vous le disiez, les hommes meurent toujours d'un pépin technique.
The idea is not to turn...
Mais oui, il ne s'agit pas de transformer les êtres humains en immortels comme Dieu, parce que Dieu ne peut pas mourir de quoi que ce soit. Mais l'idée est de surmonter tous ces petits problèmes techniques qui entraînent la mort. Alors, je ne sais pas si on y arrivera, mais le seul fait d'essayer de le faire risque de quand même changer la donne à l'échelle humaine, à l'échelle mondiale. Et je ne dis pas que ce soit impossible. Cela n'arrivera pas de mon vivant, je ne pense pas. Je crois que j'arrive trop. Mais pourtant, un enfant né aujourd'hui, je crois que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un enfant né aujourd'hui a, disons, une petite chance de vivre presque indéfiniment, à condition qu'il ou elle soit suffisamment riche pour le faire. Pourquoi ? Parce que, évidemment, tous les traitements seront évidemment faramineux en termes de coûts. Donc la condition préalable à l'immortalité, c'est la richesse.
Alors beaucoup d'entre nous acceptent la fatalité, la finitude de la vie, l'inexorable dégringolade dans la tombe. Mais pour certains, cette idée reste insupportable. Je cite Larry Ellison, le fondateur d'Oracle, la 7e fortune mondiale, la mort me met vraiment en colère, elle n'a aucun sens. Les plus riches pourront bénéficier des traitements biotechnologiques les plus innovants pour gagner des années de vie. il faut rappeler que les grands progrès de la médecine ont toujours servi à améliorer les gens riches, la santé des gens riches et en bonne santé.
C'est vrai, c'est vrai. Disons que les progrès scientifiques ou technologiques ne vont pas simplement créer de plus grands écarts entre les classes sociales, mais surtout plus de colère, plus de violence. Pourquoi ? Parce que, à travers l'histoire, la mort a été considérée comme l'égalisateur. Les riches, comme les pauvres, mouraient. Donc, les pauvres se plaignaient que les riches avaient tout, mais au moins, disaient-ils, au moins, tout le monde meurt à la fin. C'était la seule. La seule justice, en quelque sorte, hein, que même les riches vont mourir. Mais alors, imagine la colère des pauvres lorsqu'ils se rendront compte que les riches ne meurent même pas. Alors, eux, ils doivent mourir, mais les riches, non seulement ils ont tout, mais en plus, ils vivent indéfiniment, restant toujours jeunes et beaux.
Alors, je disais, hein, les grands progrès de la médecine ont toujours servi à améliorer les gens riches et en bonne santé. Exemple avec la chirurgie esthétique des gueules cassées de la Première Guerre mondiale.
Yes, I mean, it's also true that, of course, in the past, many of the inventions that first helped the rich are trickled down to help everybody.
Du passé qui ont aidé les riches ont ensuite aidé tout le monde. Par exemple, les vaccins, les antibiotiques, au départ, étaient quand même destinés aux classes les plus aisées de nos sociétés contemporaines. Mais aujourd'hui, même les plus pauvres en Inde ou au Brésil ont accès aux antibiotiques, aux vaccins. Mais pour autant, on ne peut pas être certain que la même chose se passera au XXIe siècle. Pourquoi ? Parce que l'État ou les élites n'auront plus de raison d'investir dans la santé ou dans le bien-être des masses, des classes populaires. Au XXe siècle, même les États dictatoriaux comme l'Allemagne nazie ou l'Union soviétique, les États ont énormément investi dans la santé du peuple, des masses populaires, pour assurer les classes populaires, parce qu'ils en avaient besoin. Hitler lui-même savait que s'il voulait que l'Allemagne soit une nation forte, avec une armée forte, une économie puissante, il avait besoin de millions d'Allemands lambda dans l'armée allemande ou dans les usines allemandes. Et donc, il a investi dans leur santé. Mais au XXIe siècle, la plupart des gens n'ont plus aucune utilité sur le plan militaire, déjà. L'armée s'appuie sur un tout petit nombre d'une élite de soldats extrêmement professionnels, extrêmement spécialisés, et de plus en plus de technologies, les drones, les robots, et tout ce qu'on appelle la cyberguerre. Il se passe la même chose dans l'économie civile. Vous avez des voitures autonomes qui remplaceront les taxis. Vous avez des docteurs qui sont en fait des robots qui vont remplacer les médecins humains. Alors il n'y a plus aucune raison, aucune incitation à investir dans la santé du peuple.
Guillemette Audicino.
Mais alors, pendant que les futurs grands de ce monde ou cette future élite technologique se désintéressera de la santé de la masse puisqu'elle n'en aura plus besoin. Mais elle, en revanche, si elle arrive vraiment à prolonger sa vie, mais bon sang, qu'est-ce qu'elle va en faire ? Parce que, en fait, le problème avec peut-être pas l'éternité, mais un morceau d'éternité, c'est l'oisiveté. Comment on va occuper tous ces gens qui vont vivre 150 ans ?
Well, I guess you play more and more games.
Je pense qu'on passera de plus en plus de temps à jouer, à toutes sortes de jeux. Certains experts pensent que l'oisiveté va se traduire par l'excès d'usage de la drogue ou des jeux vidéo. Et effectivement, de plus en plus de gens ont recours aux médicaments ou aux substances chimiques pour rééquilibrer leur état mental et passent de plus en plus de temps également à jouer à des jeux de réalité virtuelle, des jeux vidéo, et on va créer des jeux de plus en plus attrayants, de réalité virtuelle. Et en soi, ce n'est pas quelque chose de nouveau, puisque depuis des milliers d'années, les gens se sont toujours intéressés. On trouvait même un sens dans les jeux de réalité virtuelle. On ne les appelait pas comme ça à l'époque, on appelait ça la religion. Mais quand on y réfléchit un peu, qu'est-ce que c'est que la religion ? La religion, c'est un jeu de réalité virtuelle auquel jouent ensemble des millions de joueurs. Alors on invente des lois ou des règles imaginaires qui n'existent nulle part sauf dans leur imagination. C'est exactement ça que l'on fait depuis des milliers d'années.
Éric Livio de l'Express.
Oui, pour résumer un peu brutalement, est-ce que ça veut dire que plus on est riche, plus on a envie de combattre Dieu, puisqu'on essaie de vaincre la mort?
Alors, je dirais pas ça comme ça. C'est pas que l'on en veuille à Dieu, qu'on veuille lutter contre Dieu. Mais par contre, effectivement, oui, lutter contre la mort. Parce que si on estime que la mort est un ordre, un commandement divin, alors oui, effectivement, là, on a maille à partir avec Dieu. Mais Dieu a toujours évolué avec l'histoire à mesure que la technologie, que les systèmes politiques ont changé. Les gens ont changé de Dieu, ou en tout cas, les dieux des gens ont changé, puisque les dieux, les religions n'ont pas été créées au ciel, mais ils ont été créés sur terre par des êtres humains avec des objectifs et des besoins tout à fait humains. Donc il est tout à fait probable qu'au XXIe siècle, nous adapterons et nous recréerons nos religions pour s'adapter à une nouvelle situation.
Yuval Noah Harari, les plus riches pourront peut-être un jour vivre au moins 150 ans en échappant à la maladie et à la vieillesse. Grâce au progrès combiné du génie génétique, de l'intelligence artificielle et de la bionique. Quel est votre jugement moral sur l'alliance du génie génétique, de l'intelligence artificielle et ou de la bionique dans le but de donner naissance à une nouvelle humanité?
It's likely to
cette alliance des sciences ne va pas simplement changer l'humanité, il va changer l'homme, mais c'est même la nature de la vie qui va changer, parce qu'on remplacera la sélection naturelle ou l'évolution par le dessin intelligent, par la création intelligente. On va créer des formes de vie non biologiques, non organiques. Et alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais ce qui est certain, c'est que comme toutes les révolutions technologiques, vous aurez un peu de tout. Vous aurez de bonnes choses et de mauvaises choses dedans. Il n'y a rien de mauvais en soi, rien de mal en soi à surmonter la maladie, à trouver des remèdes au cancer ou à la maladie d'Alzheimer ou que sais-je. Mais par contre, il y a évidemment d'autres dangers inhérents à cette évolution. J'en ai évoqué un, c'est-à-dire les inégalités extrêmes entre les classes. Il y a un autre danger, à savoir qu'on pourra assister à l'effondrement des démocraties libérales et on verra apparaître des dictatures numériques, pour ainsi dire. Au XXe siècle, la raison pour laquelle les dictatures ont échoué lorsqu'elles luttaient contre les démocraties, c'est qu'au bout du compte, la dictature est un moyen moins efficace de traitement de l'information, puisque la dictature, en fait, c'est un système qui s'appuie sur le traitement central de l'information. Le traitement centralisé. Dans l'Union soviétique, toute l'information remontait à Moscou et c'était là que toute l'information était concentrée, traitée et toutes les décisions étaient prises en un point central par une seule institution centralisée. C'est ça, la dictature. Or, en démocratie, vous avez au contraire une répartition, une distribution du processus informationnel et décisionnel. Vous avez toutes sortes d'institutions, de personnes qui peuvent communiquer entre elles et directement, sans passer par le point central, tous les acteurs peuvent traiter eux-mêmes l'information, prendre eux-mêmes leurs décisions. Et au XXe siècle, ce mode de fonctionnement était plus efficace. Mais avec la montée de l'apprentissage par la machine, l'intelligence artificielle, il sera peut-être plus efficace de traiter l'information d'un point central plutôt que de s'appuyer sur un système distribué. Et à ce moment-là, les dictatures seront plus efficaces que les démocraties. Et là, le risque, c'est qu'on se retrouvera avec des dictatures digital, numérique, parce que le dictateur ne sera plus une personne comme Staline ou Hitler. L'autorité sera détenue par les algorithmes. Les algorithmes qui traiteront les données, ce seront eux qui prendront les décisions importantes et aucun être humain, pas même l'élite politique, ne sera associé à ça, ne pourra même comprendre le pourquoi des décisions, ne pourra savoir pourquoi l'algorithme est arrivé à telle ou telle décision.
Allez, il est déjà l'heure de retrouver La vie des films de Guillemette Odissino.
La vie des films.
T'as été formidable, tu sais.
Allez, faut pas rester là, voyons, Corneille. Va surveiller la fricassée.
Sur France Inter.
Ce qui compte, c'est que ça se soit bien terminé.
Les ovules qu'on vous a prélevés, Marie, ont été fécondés avec le sperme d'Antonio, votre mari. Après une présélection, nous nous retrouvons, comme vous le voyez, avec deux garçons sains et deux filles très saines. Naturellement, pas de prédisposition à aucune des plus graves maladies héréditaires. J'ai pris la liberté d'éradiquer tout risque de préjudice potentiel tels que calvitie prématurée, myopie, alcoolisme et prédisposition aux dépendances, tendance à la violence, obésité, ce genre
nous
de choses.
Nous voulons pas qu'il ait des maladies, certes, mais...
Oui, nous demandions seulement si ce serait bien de laisser quelques petites choses au hasard.
Faites-moi confiance, il reste déjà suffisamment d'imperfections. Et gardez à l'esprit que cet enfant est toujours vous, simplement le meilleur de vous. Vous pourriez concevoir de façon naturelle un millier de fois et ne jamais atteindre un tel résultat.
Guillemette Odissino, ce matin dans La vie des films, un film futuriste, Bienvenue à Gattaca, le chef-d'œuvre d'Andrew Niccol, sorti il y a tout juste 20 ans.
Absolument, en 1997, et on pensait que, qu'est-ce qu'il avait comme génie, Andrew Niccol, de nous inventer Gattaca. Et en fait, eh bien, après avoir lu les deux livres de notre invité exceptionnel d'aujourd'hui, on se dit que, en tout cas, il ne l'a peut-être pas inventé, il a anticipé. Parce que ce qu'on vient d'entendre dans l'extrait de ce film, c'est ça, c'est-à-dire c'est l'eugénisme. Alors, pour le moment, le transhumanisme, ce n'est que rajouter des morceaux de corps, améliorer des morceaux de corps, robotiser certaines parties de notre corps qui pourraient se casser dans l'avenir, etc. Gattaca va plus loin, mais en fait, pourquoi justement l'humanité qui veut devenir divine n'irait pas plus loin? C'est-à-dire de prendre dès l'origine, c'est-à-dire dans l'ADN. Donc, Gattaca, c'est une société qui est gérée par un eugénisme absolument global, totalement accepté. Eugénisme et aussi hygiénisme, tout est absolument parfait. Une géographie, une architecture parfaite. Et à l'intérieur, donc, des bébés qui sont nés suivant les règles de Gattaca. Ils sont nés valides, avec un ADN totalement contrôlé, préparé. Et puis, il y en a quelques-uns, mon Dieu, les pauvres, ils sont nés... C'est horrible le terme, invalide, invalidé par la société, parce qu'ils sont nés naturellement. Et le héros, c'est Vincent, nom de famille Freeman, Freeman, homme libre. Lui, il est né invalide, il est né naturellement, juste d'un homme et une femme qui ont fait l'amour parce qu'ils s'aimaient. Et il n'a qu'un rêve, c'est partir dans l'espace, puisque dans cette société d'avenir, on peut aussi aller visiter d'autres planètes. Sauf qu'il faut être totalement valide, totalement parfait, totalement conçu à l'origine par la société pour pouvoir partir dans l'espace. Comment va-t-il se débrouiller? Évidemment que je ne vous le dirai pas, mais en tout cas, il va étrangement recevoir l'aide d'un valide. Un valide dont le deuxième prénom est Eugène. Eugène, eugénisme. Eugène, lui, ah oui, c'est un homme parfait qui a été conçu suivant la société de Gattaca, sauf qu'il a eu un petit pépin entre-temps. Il est devenu paraplégique. Et pour un homme parfait, devenir imparfait, c'est absolument atroce. Alors il va donner une partie de sa perfection à Vincent Freeman, peut-être pour l'aider à partir dans l'espace, pour l'aider à s'envoler. C'est finalement un film qui dit que la recherche absolue, effrénée de perfection est un leurre, parce que c'est peut-être votre dernier goutte d'imperfection qui fera votre réussite.
Réaction de Yuval Noah Harari. Je crois que vous aimez beaucoup ce film, Bienvenue à Gattaca.
Oui, je l'ai vu, hein. C'est un excellent film. Probablement l'un des meilleurs films de science-fiction jamais réalisé. Alors, ce film et cette histoire s'appuient sur un mythe très ancien, à savoir que si les êtres humains essayent de s'améliorer, cela va toujours se retourner contre eux, il y aura toujours un problème. Et on le voit souvent d'ailleurs dans les films de science-fiction, mais ici, ce qui est vraiment effrayant, le scénario vraiment catastrophe, c'est que justement, tout se passe bien, qu'il n'y ait aucun retour de bâton, qu'on va constamment réussir à améliorer l'homme, et l'homme a peur de cela. Pourquoi? Parce que ça signifie que l'homme tel qu'il est n'est pas la meilleure chose qui soit. Il ne représente pas l'aboutissement de l'évolution, il y a toujours mieux que cela. Et les gens n'aiment pas se dire qu'ils valent moins que ce que l'on fait de mieux. Et donc, on aime les films de science-fiction où l'on voit comment les tentatives d'améliorer l'homme se retournent contre lui et échouent au bout du compte. Et je crois que ce qui est véritablement effrayant par rapport au XXIe siècle, c'est que justement, il n'y aura pas cet échec ou ce retour de bâton, il y aura peut-être vraiment des super-humains, des cyborgs qui seront meilleurs, entre guillemets, que les êtres humains, ou les dépasseront en tout cas. Et c'est ça qui est vraiment effrayant, c'est ça qui est dangereux.
Yuval Noah Harari, comment vous expliquez notre goût pour les dystopies? Les dystopies, c'est un peu le contraire des utopies.
I think actually we are not so concerned about dystopias. I mean,
c'est pas tellement les dystopies qui nous fascinent. Alors, c'est sûr que les artistes et les philosophes en parlent ou les évoquent, mais dans les sphères politiques ou économiques, finalement, cette question nous intéresse moins. On s'intéresse moins. Il y a moins d'engouement pour ces scénarios où les choses se passent mal. Si vous parlez à un industriel ou un businessman, vous verrez qu'il sera toujours certain que les nouvelles inventions vont rendre le monde absolument merveilleux. Et c'est en fait à l'artiste ou au philosophe de dire, attention, les choses pourraient mal tourner, il pourrait y avoir des problèmes. Enfin, si vous comparez la puissance relative des deux communautés, bon, alors, vous allez au cinéma, vous allez voir Gattaca, ok, ça c'est la puissance de l'artiste. Et ensuite, quand vous rentrez chez vous, vous investissez vos fonds de pension sur Google ou Facebook ou Apple, ces gens-là croient au contraire à un monde merveilleux.
Et parmi les dystopies, on peut évidemment citer 1984 d'Orwell, Le meilleur des mondes d'Huxley, en passant par La servante écarlate de Margaret Atwood ou Hunger Games de Suzanne Collins. Eric Libiot de l'Express.
Oui, dans la dernière partie de votre livre, vous parlez beaucoup des big data, de ces phénomènes des données. Et la première fois, alors vous appelez ça le dataïsme. La première fois que j'ai lu ce mot dans votre livre, j'ai lu dadaïsme d'ailleurs. Et je trouvais ça assez drôle, cette espèce d'ironie du langage. Mais par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, tout système crée ses propres perversions, qu'une démocratie numérique peut devenir assez vite une dictature numérique. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est conscient de ces perversions et comment est-ce qu'on peut lutter contre ?
Je crois que l'on en prend conscience, mais jamais assez vite. Ce qui se passe, c'est que ce qui est surtout important, c'est d'abord réguler effectivement la propriété des données. Qui est le propriétaire? Qui détient les données? Au Moyen-Âge, la grande question politique est de savoir qui était propriétaire de la terre, qui possédait la terre. Au XXe siècle, la grande question politique était qui détient les richesses industrielles, les usines. Ça, c'était le grand conflit entre les communistes et les capitalistes qui possèdent les outils de travail, l'outil industriel. Et au XXIe siècle, la question est de savoir qui est propriétaire des données, qui détient cette puissance-là. Et actuellement, il y a très peu de réflexion autour de cette question. Les données sont incontestablement cumulées entre les mains d'un tout petit nombre de sociétés et d'États, et il n'y a pas de débat politique. Quelle est la différence entre la gauche et la droite sur cette question de qui détient des données? Est-ce qu'il y a un progrès politique à ce sujet concernant la réglementation de cette question non.
Allez, dans quelques instants, la suite de notre entretien exceptionnel avec Yuval Noah Harari qui publie Homo Deus. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
Daft Punk, Get Lucky.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Émission spéciale ce matin avec Yuval Noah Harari, l'auteur du succès mondial Sapiens, et qui publie Homo Deus, avec ce matin la traduction de Robert Wolfenstein. Yuval Noah Harari, vous racontez donc l'histoire d'un surhomme du futur, d'un homme-dieu. Mais de quel type de divinité parlez-vous? Vous pensez plutôt au père tout-puissant du ciel biblique, ou plutôt au dieu grec?
No, it's more like the Greek gods.
Ce serait plutôt les dieux grecs le père tout-puissant de la Bible. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est pas des compétences divines qui sont acquises au sens biblique. On peut recréer la vie, certes, mais on reste quand même sujet aux émotions, aux conflits, comme les dieux grecs.
Ce nouvel homme, cet homme-dieu aux capacités physiques, sensorielles, mentales exceptionnelles, sera-t-il au fond plus heureux que les pauvres homo sapiens que nous sommes tous autour de la table?
Le bonheur est une toute autre affaire. Si l'on se tourne non seulement vers l'avenir, mais sur le passé, vous constaterez que l'être humain est très doué pour acquérir la puissance, mais l'homme a beaucoup de mal à traduire puissance en bonheur. Et c'est la raison pour laquelle on est mille fois plus puissant qu'à l'âge de pierre, certes, mais on n'est pas nettement plus heureux. Et en fait, le principal problème par rapport à tout cela, c'est que notre bonheur est défini par nos attentes. Et à mesure que notre situation s'améliore, notre condition s'améliore, notre puissance se développe, on a de plus en plus d'attentes. Et du coup, on est toujours aussi frustré, encore plus frustré même qu'avant.
Demain cohabitera une élite d'homo deus, de surhomme, et d'une grande masse d'homo sapiens.
This is a danger again.
Mais oui, et ça c'est le. Alors c'est pas certain, mais c'est quand même le danger qui nous guette. Et il y a encore temps de faire quelque chose pour éviter cela. Mais si on n'est pas prudent, eh bien effectivement, les nouvelles technologies vont créer de nouvelles inégalités qui résulteront en une division de l'humanité entre plusieurs castes ou classes, des classes qui auront le monopole de la puissance phénoménale de la biotechnologie. Et du génie génétique, et puis le reste, l'humanité qui aura perdu son pouvoir économique et politique, qui sera devenue une classe inutile.
Alors je cite Bill Gates, le fondateur de Microsoft, à propos de votre ouvrage. Homo Deus explique que les principes qui ont organisé la société vont subir un bouleversement au XXIe siècle, avec des conséquences majeures pour la vie telle qu'on la connaît.
Je suis tout à fait
d'accord avec Bill Gates là-dessus. Tout ce que nous savons, tout ce que nous connaissons des systèmes socio-économiques, politiques, tout cela va être complètement bouleversé dans les dizaines d'années à venir. Alors, on ne sait pas exactement comment, mais on dit que si quelqu'un décrit l'avenir, décrit le monde tel qu'il sera, par exemple, en 2050, et que cette description ressemble à de la science-fiction, probablement cette description est inexacte. Par contre, si on décrit le monde 2050 et que cette description ne ressemble pas à la science-fiction, alors elle est certainement complètement fausse.
Et le libre arbitre dans tout ça, chez Homo Deus, le surhomme de demain fera davantage confiance aux algorithmes pour guider sa vie qu'au libre arbitre?
Mais oui, ce qui risque de se passer, ce qui se passe déjà aujourd'hui, c'est que l'autorité passe de l'être humain aux algorithmes des machines, de plus en plus de décisions pour lesquelles autrefois on s'appuyer justement sur notre libre arbitre ou même notre intuition, ces décisions-là, on les confie maintenant à des algorithmes. Et donc, ça commence par des petites choses. Par exemple, si vous voulez vous retrouver dans une ville, venir ici à la maison de Radio France. Bah, autrefois, on s'appuyait sur son intuition, sur sa propre connaissance de la ville, comment arriver de A à B, de chez moi à Radio France. Mais aujourd'hui, on s'appuie sur les algorithmes qui sont dans votre smartphone, dans Google Maps. Vous arrivez à un carrefour, votre instinct vous dit de tourner à droite, mais le smartphone vous dit non, 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 tourne à gauche, ça va plus vite. Et votre expérience vous amène à faire confiance à l'algorithme finalement. Et dans les années, dans les dizaines d'années à venir, cet exemple-là va se généraliser à des décisions de plus en plus importantes. Par exemple, quelle formation suivre à l'université, quel métier choisir, qui épouser.
Vous pouvez expliquer juste en deux mots ce qu'est un algorithme à ma mère ?
An algorithm.
Oui. Alors, pour faire simple, un algorithme, c'est un système qui vous permet de prendre des décisions en s'appuyant sur des calculs. Et ces calculs se font étape par étape, pas à pas. Alors, on a tendance à se dire que la façon dont on prend des décisions, c'est par l'intuition, c'est qu'on sent, on devine ce qu'il faut faire. Mais en fait, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Toute la neurologie vous montre que les êtres humains d'aujourd'hui prennent leurs décisions justement en faisant des calculs. Vous avez des milliards de neurones dans le cerveau qui font des calculs extraordinairement rapides. Par exemple, si vous voyez un lion venir vers vous, les neurones sont très rapides. Ils arrivent à la décision, il y a un danger, il faut se barrer, il faut s'enfuir. Et on ressent de la peur. Et cette peur ne résulte pas de l'intuition. La peur résulte justement de ces calculs effectué par les neurones à haute vitesse. Alors, ce que vont faire les big data, c'est de justement remplacer nos propres algorithmes, disons biochimiques, dont nous avons hérité depuis l'âge de la savane, mais remplacé par des calculs bien plus rapides, bien plus efficaces, qui vous permettent de prendre des décisions, pas simplement sur des lions qui vous attaquent, mais également, je ne sais pas, la situation politique, les grands choix économiques, enfin, que sais-je.
Yuval Noah Harari, dernière question. Si une météorite détruisait de façon sûre et certaine la planète dans les 6 prochains mois, que feriez-vous pendant ces 6 derniers mois de votre vie ?
Voilà, excellente question. Écoutez, actuellement, ce que je vais faire, là, je vais rentrer chez moi, je vais rester chez moi quelques jours, et ensuite, je vais me rendre en Inde pour participer à une retraite de méditation. Je fais de la méditation, et ça, je crois que ce programme ne va pas changer là. En tout cas, dans l'immédiat, même si une météorite devait détruire la planète dans 6 mois, ce projet immédiat, je m'y tiens, parce que je crois que c'est une bonne idée de consacrer 2 mois de sa vie à me connaître mieux à travers la méditation et mieux comprendre la vérité sur moi-même et sur le monde. Maintenant, si quelqu'un comprenait véritablement la vérité sur lui-même, je crois que rien au monde, pas même une météorite, le rendrait malheureux.
Merci beaucoup Yuval Noah Harari. Merci. Est-il beaucoup bien utile de recommander Homo Deus, une brève histoire de l'avenir publiée chez Albin Michel? Merci beaucoup d'être venu ici à Radio France, à France Inter. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Bonjour.
À suivre, la petite mythologie d'un objet du quotidien d'Éric Libiot, rédacteur en chef à l'Express. Éric Libiot, dans votre petite mythologie d'un objet du quotidien, l'ampoule.
Eh oui, mais je voudrais d'abord dire... Dans votre livre, Yuval Noah Harari, vous racontez le futur de l'homme et son histoire en mettant régulièrement en balance, le spirituel et la technologie, la religion et la science. Et vous vous demandez, page 298, quelle est l'invention la plus importante du XXe siècle? Avec tout le respect que je vous dois, je vous trouve un tout petit peu petit bras sur ce coup-là. Et moi, je me pose la question, quelle est l'invention la plus importante dans toute l'histoire de l'humanité? On ne fait pas dans la demi-mesure aujourd'hui. Alors vous pensez bien, Ali, que j'ai cogité sérieusement, parce que je vous vois venir, vous pensez que je vais sortir un truc idiot? Eh bien non. Pour moi, l'invention et du coup l'objet le plus important dans toute l'histoire de l'humanité, c'est l'ampoule. Oui, l'ampoule. D'abord, en parler permet de répondre à l'éternelle question qui de l'œuf ou de l'ampoule est arrivé en premier? Eh bien, c'est l'œuf, puisque l'ampoule est apparue en 1835 et a été conçue et commercialisée par Thomas Edison en 1879, alors que l'œuf, lui, évidemment, est beaucoup plus ancien, hein, l'ampoule. Objet pratique et métaphorique qui fait passer de l'obscurité à la lumière, qui symbolise une idée lumineuse quand elle est placée au-dessus de la tête, qui pousse les artistes à créer, de Picasso dans Guernica à Dan Flavin et ses néons dans Guernica, de Picasso d'ailleurs, l'ampoule est à la fois conscience et lumière, œil et vérité. L'ampoule fait mal aux pieds, l'ampoule a du culot, l'ampoule recueille les huiles saintes, l'ampoule soigne, l'ampoule éclaire, l'ampoule est parfois laide, mais elle est toujours belle, l'ampoule avance quand elle est verte, s'arrête quand elle est rouge, l'ampoule s'adapte aux économies d'énergie, l'ampoule se forme, se transforme et se multiforme. Non, franchement, qu'y a-t-il de plus réussi comme objet que l'ampoule ? Alors aux États-Unis, installée dans la caserne des pompiers de Livermore, en Californie, la plus vieille ampoule en activité du monde brille toujours depuis 1901. Pour expliquer sa longévité, il y a bien sûr des hypothèses physiques auxquelles je n'ai pas compris grand-chose, car elles sont conditionnelles, parce que personne ne sait pourquoi l'ampoule, cette ampoule, continue de fonctionner. Cette ampoule, d'ailleurs, a passé le million d'heures de fonctionnement en 2015. Elle est la preuve que l'obsolescence programmée n'est pas une fatalité. D'ailleurs, la webcam qui l'a filmée en continuité a tenu 3 ans et a dû être remplacée, c'est dire l'ironie de la chose. Cette ampoule-là n'éclaire pas un stade, ne permet pas non plus de lire, mais elle est là. Elle éclaire faiblement, mais elle est là. Elle a donc 118 ans d'existence, soit un an de plus que l'actuelle doyenne de l'humanité, la Jamaïcaine Violette Brown, qui explique sa longévité par son amour du Christ. Et nous revoilà encore dans le combat entre la science et la religion. Se pose alors une nouvelle question, cette fois-ci sans réponse, qui de l'ampoule ou de Violette Brown va disparaître en premier ? On a les petites mythologies qu'on mérite, mais on vit une époque formidable.
La petite mythologie d'un objet du quotidien avec Éric Ribiot de l'Express. Et lundi, on s'intéresse au mal de dos, encore et toujours, le mal du siècle. Et ça fait rire Guillemette. Bon week-end à
pas
tous.
Pas du tout.